Oui, Yann. Ah, pardon. On commence. On est en retard. De 6 minutes. Et donc, il va falloir que tu parles 1,5 fois plus vite que prévu. Pour qu'on soit à l'heure, pour que les gens aient le temps de te poser des questions. Puisqu'on va parler de quelque chose qui n'est pas automatique et qui s'appelle les antibiotiques. Je n'ai pas trouvé mieux, je suis désolé. Je sais que on avait déjà. Si vous êtes habitué à la nuit de la recherche, anciennement la nuit européenne des chercheurs, on a déjà parlé du fait que les antibiotiques c'était bien, mais que malheureusement il y avait un abus depuis de nombreuses décennies, et que des pays tels que l'Italie, la France et de nombreux pays occidentaux vivaient un changement dans la médecine de par le fait que les antibiotiques étaient de moins en moins efficaces. Alors, est-ce qu'il en sera question avec notre doctorant du soir, Yann Barbiguier. Bonsoir, Yann.
Bonsoir.
Bienvenue pour cette nuit européenne, cette nuit de la recherche, pardon, ici même à la BFM, dans ce cadre, donc. Alors, on s'est creusé les méninges avec Louis concernant donc, le son que l'on peut donner donc, à ce domaine de recherche. On peut faire le noir et on peut commencer. Yann, je t'en prie.
Allez, bonsoir à tous. Alors, pour parler de ma recherche, je vais vous emmener avec moi en balade. On va bientôt rentrer dans une période automnale. Mais peut-être aller le dimanche en forêt, vous balader, faire la cueillette de champignons. Alors, vous vous imaginez, dans cette forêt, vous faites votre petite randonnée. Et là, vous vous mettez à tousser. Et là, vous vous rappelez que... au travail, vous avez côtoyé votre collègue qui avait attrapé une angine et vous vous dites « Ah, ça y est, le retour des maladies, j'ai attrapé une angine bactérienne. » Mais je me rappelle, l'année dernière, j'en avais attrapé une. Il me reste quelques antibiotiques à la maison. Je vais pouvoir en prendre un ou deux, ça ira mieux. Le problème, c'est que ce que vous venez de faire a créé des résistances sur les bactéries qui créent votre infection et cela vous a amené à l'hôpital. Et le problème, c'est qu'une fois arrivé à l'hôpital, les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques. Bon. Maintenant, on va essayer de parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. Il faut savoir que, de nos jours, on a la résistance aux antibiotiques qui est devenue un vrai enjeu de santé publique. En effet, on recense des milliers de morts chaque année liées aux résistances contre les bactéries. Et cela a des impacts non seulement sur la santé humaine, mais aussi sur l'environnement, sur la santé des animaux, mais également au niveau économique. Donc pour cela, l'Europe s'est dit « il y a un problème, donc il va falloir remédier à cela ». Ils ont créé un projet qui s'appelle One Health. Vous avez sûrement dû en entendre parler partout ce soir. Et pour cela, ils veulent développer des nouvelles techniques pour développer des traitements alternatifs aux antibiotiques pour essayer d'éviter ces phénomènes de résistance. Et c'est donc dans cette thématique-là que mes recherches arrivent. En effet, je suis chimiste et non pas biologiste, et mon domaine est donc de trouver des nouvelles molécules ou des nouvelles techniques pour lutter contre les bactéries. Donc pour cela, j'utilise la photothérapie dynamique antibactérienne. En quoi ça consiste ? C'est une molécule qu'on va appeler un principe actif qui est capable de capter la lumière et, en présence d'oxygène, de produire des choses qui vont pouvoir éliminer ces bactéries. Bon, dit comme ça, c'est peut-être un peu compliqué. Alors, on est dans le noir, je vous propose de fermer les yeux, je vais vous raconter une petite histoire. Il faut que vous vous imaginiez, votre corps est un immense champ de bataille. Lors d'une infection, des ennemis... les bactéries vont vouloir essayer d'envahir votre corps. Et là, vos petits soldats, les globules blancs, vont essayer de le défendre. Mais ils ne vont pas être assez efficaces. Et c'est là où j'entre en jeu. Moi, je vous apporte des nouveaux soldats, des snipers d'élite. Et ces snipers, je les ai choisis pour une bonne chose, parce qu'ils ont des nouvelles armes, des armes sophistiquées. Ce sont des snipers qui possèdent des armes qui fonctionnent grâce à l'oxygène présent autour d'eux, mais également avec la lumière. Et ces armes-là vont pouvoir tuer ces fameuses bactéries. Mais le problème dans tout ça, c'est que notre champ de bataille, notre corps, est rempli d'immensité d'eau. Il faut imaginer que les champs de bataille sont séparés par de vastes océans. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que malheureusement, nos snipers sont bien efficaces, mais ils ne savent pas nager. Et oui, un grand problème du coup pour aller sur le champ de bataille. Donc moi, mon but ici, c'est de leur trouver le moyen de leur faire traverser ces océans pour qu'ils puissent se battre efficacement. Et donc pour cela, j'ai mis au point des sous-marins. Dans ces sous-marins, ils vont ainsi pouvoir passer à travers tous les océans et se diffuser dans tout votre corps pour aller au contact des bactéries et les éliminer. Le combat était rude, mais ça y est, ça a marché. Vous êtes enfin guéri, vous avez éliminé toutes ces bactéries. Bon, parlons maintenant un peu plus sérieusement. Revenons un petit peu dans notre forêt. Vous vous baladez, vous toussez, mais cette fois-ci, vous avez un comportement différent. Vous marchez, vous toussez, et là, vous marchez sur une branche qui craque. Vous regardez dans les airs et vous voyez le vent qui souffle dans les feuilles. Et vous réfléchissez. Et vous vous dites, mais est-ce que les arbres, est-ce que les plantes tombent malades ? Alors si vous vous posez la question, oui. Mais comment se défendent-ils ? Eh bien, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Et justement, moi, je reproduis certains phénomènes qu'utilisent les plantes pour se défendre, pour lutter contre les bactéries. J'utilise donc, dans mon laboratoire, des molécules qui sont extraites de la nature. Elles sont extraites des plantes. Notamment, ce sont des molécules qui vont reproduire les phénomènes de photosynthèse. Ça doit vous parler un peu à tout le monde. Cette magnifique usine qu'est la photosynthèse, qui capte l'oxygène, qui capte le CO2 et qui produit de l'oxygène rien que en absorbant de la lumière. Eh bien, nous, on fait la même chose. Mais nous, on capte l'oxygène, on utilise aussi l'énergie de la lumière et on produit des molécules capables de détruire les bactéries. Mais vous vous rappelez mon histoire, le problème du sous-marin ? Eh bien là, on va utiliser encore une fois une molécule naturelle qui est tout simplement issue du bois. C'est ce qu'on appelle la lignine. La lignine est un des trois grands composants du bois. C'est d'ailleurs cette molécule qui fait que les arbres se tiennent droits quand le vent ne les fait pas craquer, bien sûr. C'est ce qui donne la rigidité au bois. Et cette molécule-là, une fois qu'on la récupère, on peut s'en servir pour faire ce qu'on appelle des nanoparticules. Ce sont des petites billes qui vont pouvoir encapsuler à l'image d'un sous-marin notre principe actif et pouvoir l'aider à traverser les océans. Et donc, une fois qu'on a réussi à récupérer notre lignine, à faire nos petits sous-marins, ben maintenant, il va falloir les tester contre les bactéries. Donc, la deuxième partie de mes travaux de recherche sont également l'application de ces nanoparticules contre les bactéries, parce que c'est bien beau de faire des sous-marins, mais est-ce qu'ils sont efficaces ? Est-ce que nos soldats arrivent tous en vie ? Et du coup, je réalise des essais. Et ça marche. Alors en effet, les résultats sont encourageants, c'est prometteur. Mais vous pourrez me poser la question, quelles pourraient en être les applications ? J'ai quelques exemples à vous donner. On pourrait utiliser ces nanoparticules comme spray désinfectant, par exemple, pour désinfecter des plaies ou des surfaces. Mais une des autres applications qui peut être assez intéressante et dont vous n'avez sûrement aucun de vous pensé, c'est l'industrie agroalimentaire. En effet, l'industrie agroalimentaire est demandeuse de nouvelles techniques pour la conservation des aliments. Et la dernière partie de mes recherches sont sur l'utilisation de ces nanoparticules dans des fines plastiques biodégradables afin de rendre, de créer ce qu'on appelle des emballages alimentaires intelligents, de conférer des propriétés de conservation des aliments en évitant l'ajout d'additifs ou de conservateurs directement sur l'aliment. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite du coup une bonne balade en forêt en automne.
Merci beaucoup. Ça paraît tellement simple, la chimie moléculaire racontée comme ça. On a l'impression qu'on peut tous devenir chimiste du jour au lendemain. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Alors, tu nous le racontais par rapport à ce que tu as développé, donc, hein, ces fameuses nanoparticules. On en entend beaucoup parler, je pense notamment aux textiles, aux vêtements. J'ai l'impression que c'était un petit peu un terme à la mode. C'est une forme de valeur ajoutée, c'est une forme d'intelligence artificielle du petit. Tu vois, il y a des mots comme ça, il y a des technologies qui sont très à la mode. Et ouais. Ces nanoparticules, j'ai l'impression qu'ils sont utilisés un petit peu partout et tout le temps. J'ai une crainte envers ces nanoparticules. J'ai l'impression qu'au simple contact, en tous les cas, elles peuvent s'immiscer dans ma peau et entrer en moi.
C'est une crainte tout à fait légitime. En effet, le monde du nano s'est énormément développé ces dernières années parce que on se rend compte que les propriétés de certains éléments sont différentes à l'échelle nanométrique. Le fait d'avoir une taille toute petite, on augmente ce qu'on appelle la surface superficielle. En gros, c'est assez contradictoire, mais plus on est petit et plus on a plus notre serviette peut prendre de place sur la plage. C'est un peu cette image-là qu'on peut donner. Et donc on a une efficacité qui est beaucoup plus grande. Après, il faut savoir que des nanoparticules, on peut en faire de tout et n'importe quoi, quasiment. Nous, on a fait le choix au laboratoire d'avoir des nanoparticules qui soient entièrement biosourcées. Donc, c'est-à-dire que l'enveloppe qui est de la lignine est une molécule naturelle, donc on extrait du bois. Alors forcément, on est obligé de la modifier légèrement chimiquement, mais ça ne dégrade pas ses propriétés et ça n'a aucun impact sur l'environnement. Elles sont complètement biodégradables. Et le principe actif qu'on met à l'intérieur, donc on a fait les premiers essais avec des composés qui sont commerciaux, qui sont utilisés dans des traitements anticancéreux par exemple. Mais moi, j'ai développé et extrait d'une algue un composé qui est dérivé de la chlorophylle et qui a ces mêmes propriétés-là. Et donc le but, voilà, c'est d'avoir un système qui soit complètement biosourcé et biodégradable, qui n'ait pas d'effet sur l'environnement. Mais est-ce que d'être complètement biosourcé, est-ce qu'on a quand même, on garde l'effet antibactérien ? On en a, on le garde. En tout cas, c'est prometteur. Maintenant, la dernière question qui nous reste, en tout cas dans mes recherches, c'est est-ce que ça reste quand même sain envers les cellules humaines ? Et c'est toute la question parce que, comme l'a dit certains chercheurs, ce n'est pas j'ai oublié la phrase, je suis désolé. Mais en gros, c'est la dose qui fait le poison. Plus on consomme quelque chose et plus ça peut être dangereux.
Bah, tu fais bien de le dire puisque pour revenir à ton introduction, c'est le cas des antibiotiques. Les antibiotiques, c'était le produit miracle d'il y a quelques décennies et qui aujourd'hui, au contraire, ne soignent plus, voire tuent des gens à travers cette résistance aux antibiotiques que nous avons développée, nous. Il faut aussi prendre en compte le vivant, dans le sens où les animaux que l'on mange au quotidien sont eux aussi gavés d'antibiotiques tout au long de leur vie. Ça existe, la résistance aux antibiotiques chez les vaches, les moutons, chez les animaux ?
Alors oui, parce que la résistance n'est pas liée à l'organisme qui est vivant, mais plutôt à la bactérie. C'est la bactérie qui devient résistante aux antibiotiques. Et l'intérêt de mes recherches et de cette technique qui est la photothérapie dynamique, c'est que c'est une technique qui est différente des approches antibiotiques qui vont avoir des mécanismes très biologiques où c'est ce qu'on appelle un principe actif qui va réagir sur un site actif. Il y a des interactions comme ça. Nous, on est sur un principe qu'on appelle photophysique. Ça veut dire que notre élément, notre principe actif, ne va pas interagir directement avec la bactérie, ce qui limite les phénomènes de résistance. Et on utilise des phénomènes qui sont naturels, qui sont en fait des phénomènes d'oxydation, et qu'il y a partout dans la nature. Et pour le moment, les bactéries ont très peu de mécanismes de résistance à ces phénomènes d'oxydation, qui sont en fait la dégradation naturelle des cellules.
Alors, je ne veux pas vous faire flipper et je ne veux pas te poser une colle, mais j'ai donné l'exemple de l'Italie qui était pour moi le pays que j'avais en tête comme étant l'un des pays le plus touché en Europe par rapport à la résistance aux antibiotiques, il faut comprendre que c'est un réel problème de société qui touche aussi donc la France, les pays occidentaux. Est-ce que c'est le cas partout dans le monde ?
Oui, l'OMS a relevé, alors je ne voudrais pas vous donner de bêtises, je sais que c'est dans l'ordre de entre 1 et 2 millions, plus de 1 et 2 millions, entre 1 et 2 millions de morts à travers le monde en 2019 qui étaient directement liés à des phénomènes de résistance bactérienne. Donc sur une échelle mondiale, ça fait quand même beaucoup de personnes.
Et si l'on doit se passer d'antibiotiques du jour au lendemain, est-ce qu'il existe, alors certes tes recherches, mais est-ce qu'il y a des alternances qui existent, qui sont mises sur le marché par exemple ?
Alors je suis pas expert santé vu que moi je suis chimiste, oui. Mais je peux donner quelques pistes. Je sais que en tout cas moi j'utilise la technique de la photothérapie dynamique. D'autres alternatives sont en cours. Je sais qu'il y a la sonothérapie. Après il y a des thérapies qui sont combinées qui utilisent les principes de photophysique mais pour émettre de la chaleur. Parce qu'on sait que l'élévation de la température a tendance à détériorer les bactéries. Il y a plusieurs principes qui essaient de détourner ces phénomènes d'antibiorésistance. Après, on ne pourra peut-être pas s'en passer complètement. On sait que ça sert. L'intérêt étant d'éviter d'avoir recours aux antibiotiques de dernière intention, car si ces derniers ne sont plus efficaces, c'est là où on a des problèmes et que malheureusement, ça entraîne le décès de certains patients.
Voilà, donc sachez que nous avons été enfermés tous ensemble pendant une demi-heure, que nous avons respiré évidemment... les molécules de l'autre, et que certains se mouchent, certains éternuent, hein, c'est normal, vous avez le droit. Voilà, certains tous. On verra en tous les cas ce qu'il en est dans les prochains jours. Mais si on peut éviter de prendre des antibiotiques, ne serait-ce que pour un rhume, voilà, il faut juste être patient, et puis un petit efferalgan et du sommeil fera très bien sa guérison. Yann, tu souhaitais rajouter quelque chose ?
Non, c'est tout pour moi.
Vous avez des questions à en poser ? Oui.
Oui, en effet, il y a des...
Comment on vise ?
Comment on vise ? Pour le moment, on ne vise pas encore, enfin, pas avec ma technique. Alors, directement, on ne vise pas, mais le principe de la photothérapie dynamique est une technique qui est sélective, dans le sens où on peut activer le traitement unique localement en irradiant la zone à traiter très précise. Donc on peut utiliser des fibres optiques pour irradier la zone à traiter, ou tout simplement utiliser la lumière du soleil. Si on utilise un spray désinfectant, il suffit de se pchiter la plaie et de mettre la plaie au soleil, ou rien qu'avec la lumière du visible, ça suffit à désinfecter, et l'action sera locale.
Oui, ça, puisque c'est actif en fonction, activé par la lumière.
C'est ça. Le traitement s'active que par la lumière.
Le ciblage permet une fibre optique, c'est quelques microns.
On
peut
être très précis.
Ouais. Donc, on peut avoir une meilleure précision que ce qui est utilisé actuellement. Oui.
J'avais une question. Est-ce que les nanoparticules de lignine sont accessibles partout dans le monde ? Est-ce qu'on peut en extraire en masse et pas un coup trop fort ?
Alors, on n'extrait pas les nanoparticules. C'est la lignine qu'on extrait. Ouais, et en effet, c'est une ressource qu'on considère comme étant renouvelable, parce qu'il faut savoir qu'elle a un intérêt très intéressant, parce qu'aujourd'hui, pour le moment, on s'en sert comme combustible. En fait, c'est un déchet des industries papetières. Pour faire du papier, on broie du bois, on en récupère la cellulose, et la lignine est un déchet de l'industrie papetière, et aujourd'hui, on va le valoriser, et ça se compte en milliards de tonnes de production de lignine. Et comme on l'extrait du bois, c'est une ressource qui est considérée comme étant renouvelable dans une à moyenne échelle, en faisant attention bien sûr à nos ressources.
Feuillu, sapineux, il y a...
Ça varie en effet en fonction des espèces, tout ça. Les lignines peuvent être différentes, mais on est globalement entre 20 et 40% de lignine par masse d'arbres.
Ok, d'accord, très bien. Ça sera tout ? Eh bien, merci beaucoup en tous les cas. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation.
Bonne soirée.
Merci, Yann.